Il y a dans le récit de Pâques, de la résurrection, une petite phrase que je trouve extrêmement mystérieuse. Quand Jésus dit à Marie-Madeleine, alors qu'il vient de ressusciter à la sortie du tombeau, Jésus dit à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas ». C'est vraiment une énigme de cette histoire parce qu'il est difficile de comprendre exactement ce que Jésus a voulu dire et pourquoi il interdit à Marie-Madeleine de le toucher. Cette petite phrase a eu une postérité considérable, à tel point que c'est probablement une des phrases que tout le monde connaît en latin, « Noli me tangere », « Ne me touche pas ». Et tout simplement aussi parce que ce « Noli me tangere » a été illustré mais des centaines de fois par tous les peintres de la Renaissance, du Moyen-Âge et dans les temps anciens, où vraiment cette scène de Jésus et Marie-Madeleine, où Jésus dit « Noli me tangere, ne me touche pas Marie-Madeleine », a suscité un délire de création artistique et aussi un petit peu théologique chez les pères de l'Église. Je pense que les peintres de l'ancien temps, en fait, fantasmaient un peu sur l'érotisme de la scène. On imagine Jésus qui repousse les assauts amoureux pratiquement de Marie-Madeleine, qui veut l'étreindre physiquement, et Jésus qui en fait fait comprendre à Marie-Madeleine que ce n'est pas le moment, puisque Jésus devient un être spirituel, un objet de foi, et non pas un amant physique en quelque sorte. Et les pères de l'Église ont continué de surfer sur cette idée en disant « Marie-Madeleine voulait garder son Jésus avec elle, près d'elle, et Jésus ne dit pas entièrement non, parce qu'il dit « ne me touche pas pour l'instant, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père », mais il dit qu'il doit être plus grand que ça, en montant vers son Père, en devenant une réalité spirituelle, et sans doute pour donner à Marie-Madeleine encore plus de joie, encore plus d'amour, et que finalement cela voudrait dire que les joies spirituelles sont encore plus grandes et plus essentielles que les joies physiques de la relation directe que l'on peut avoir avec quelqu'un d'autre. Mais en particulier, pourquoi donc Jésus ne veut pas qu'on le touche? C'est étrange parce que, en fait, Jésus n'a pas refusé les contacts physiques avant sa mort. Alors vous me direz que c'est parce qu'il est ressuscité. Mauvaise réponse, parce que juste après, quand il apparaît à Thomas, il lui dit « Viens, mets tes mains dans mes plaies et touche mes pieds, les clous et tout ça ». Et donc par conséquent, Jésus se laisse toucher avant et après sa mort. Pourquoi pas là, à Marie-Madeleine? Voilà une bonne question. Alors, du coup, les théologiens se sont demandé qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans la situation de Marie-Madeleine qui faisait qu'elle-même n'avait pas le droit de toucher Jésus à ce moment-là. Alors, certains ont dit que, en fait, c'est parce que Marie-Madeleine venait dans le but d'embaumer le corps de Jésus. Jésus étant mort, Marie-Madeleine venait avec la myrrhe et les aromates pour embaumer le cadavre de Jésus, et autrement dit, pour toucher la dépouille de Jésus. Et peut-être, disent certains pères de l'Église, enfin il y a 2000 ans, ils disaient « ce ne me touche pas » veut simplement dire à Marie-Madeleine « arrête de vouloir m'embaumer comme un mort, arrête avec tes myrrhes et tes aromates, sous-entendu, ne m'enterre pas trop vite ». Bon, je vous l'ai dit par respect pour les pères de l'Église, mais je trouve que ça ne fait pas sens du tout. Enfin, je pense que Marie-Madeleine a très bien compris que c'était Jésus au moment où il lui parle, et il n'est pas mort, donc elle ne va pas l'embaumer avec des aromates. Donc, tant pis pour les pères de l'Église. L'idée était sympathique, mais je crois qu'il faut l'évacuer. Alors, d'autres disent, ce n'est pas la situation, c'est la personne. C'est à Marie-Madeleine elle-même qu'il le refuse. Pourquoi? Parce que dans l'histoire d'avant, Marie-Madeleine, c'est celle, enfin un peu de choses près, qui, vous savez, aurait cette pécheresse qui se serait prosternée aux pieds de Jésus pour lui loindre les pieds avec du parfum et pour lui sécher avec ses cheveux ou quelque chose comme ça. Et donc, peut-être que justement, ce serait pour dire « autrefois tu as fait ça, maintenant c'est plus le moment ». C'est-à-dire que ce n'est plus le moment de t'occuper de mon corps. on est là sur un autre mode de présence du Christ. Parce qu'en effet, Marie-Madeleine a tendance à rester dans l'attention au physique, c'est-à-dire au corporel. Que ce soit pour l'embaumer, admettons, ou pour l'embrasser, pour l'étreindre, si jamais il est vivant, Marie-Madeleine veut avoir une relation corporelle avec le Christ ressuscité, et Jésus lui dit non, il faut passer au spirituel. Alors ça, du coup, ça peut être vrai pour nous aussi. Parce que cela voudrait dire, si vous voulez avoir une juste relation au Christ, évitez d'en rester au Christ corporel, je dirais, c'est-à-dire à l'histoire matérielle et humaine du Christ, pour passer au Christ de la foi, c'est-à-dire à la dimension spirituelle de l'affaire. Et cela, je vous l'ai déjà exprimé, j'ai souvent été frappé que quand je fais lire l'Évangile à des gens qui n'y connaissent rien, je leur dis « mais qu'est-ce que vous avez pensé de cet Évangile ?» Et très souvent, leur réaction, c'est de dire « c'est curieux, moi je trouve que Jésus est tout à fait antipathique. » C'est-à-dire qu'il est arrogant, il envoie balader les gens, il traite tout le monde comme n'importe quoi, il se prend pour le Fils de Dieu, enfin il répond même pas dans certains cas. Et donc certains disent « ce Jésus, je le trouve pas sympathique du tout, enfin il est pas, c'est pas un type bien, quoi. Certes, il meurt pour les péchés, mais dans sa vie, il n'est pas exemplaire en quelque sorte, c'est pas l'ami que l'on voudrait avoir. » Et j'ai toujours été étonné parce que, pour moi, je ne me suis jamais demandé si Jésus, dans sa vie physique, telle qu'on nous la raconte dans l'Évangile, était sympathique ou pas. Ce n'est pas la question. Jésus n'est pas là pour être sympathique. Il est là pour être la parole incarnée, donc pour dire quelque chose et transmettre un message de vie. Qu'il soit sympathique ou non, ne change rien. De même, certains... Alors c'est la mode aujourd'hui, on voulut dire en fait Jésus devait souffrir d'un grain psychiatrique, quoi. Il se prenait un peu pour Dieu lui-même, il avait un problème. Mais j'en sais rien, c'est pas le problème, il a dit des choses fondamentales, il a dit une parole qui peut transformer l'humanité, et donc Jésus n'est pas une personne sympathique ou saine d'esprit ou ce que vous voulez, Jésus est une parole incarnée, et cette parole est une parole de vie. Et on peut continuer comme ça. Parce que là, il s'agit du Christ ressuscité. Et là, on en arrive alors à des questions terribles. Je l'ai parfois évoqué, je ne m'en cache plus maintenant parce que vous êtes habitués de mes facéties. Je ne crois pas à la résurrection corporelle de Jésus. Je pense que c'est une image, une façon spirituelle de dire les choses. Mais certains y tiennent beaucoup. Et me disent, alors, monsieur le pasteur, vous n'êtes pas chrétien parce que vous ne croyez pas à la résurrection corporelle. Alors là, je vous dis, comme Jésus le dit à Marie-Madeleine, le Christ ressuscité, ça n'est pas une question de corps à toucher. Là, c'est clair. Ce n'est pas une question de corps à toucher. Parce que le Christ ressuscité n'est pas touchable. Et c'est pour ça qu'il lui dit, ne me touche pas. Il n'y a rien à toucher dans le corps du Christ ressuscité. Et il faut comprendre, justement, que la résurrection du Christ n'est pas un phénomène physique. Marie-Madeleine se dit, c'est formidable, il était mort et il revient. Voilà, il est revenu comme avant. Et elle veut le toucher comme elle le touchait avant. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, parce que je suis en train de remonter vers mon Père, c'est-à-dire de devenir une dimension spirituelle. Et donc, ce « ne me touche pas » devrait définitivement clore le débat sur la question de savoir si Jésus est ressuscité corporellement, physiquement, pas physiquement, un peu physique, mais il passe quand même à travers les murs, donc c'est un physique pas tout à fait physique, et il apparaît en même temps à Jérusalem et en Galilée, donc il a le don d'ubiquité, donc c'est un peu physique, mais pas trop, et puis il a beau ressusciter physiquement, ceux qui ne croient pas en lui ne le reconnaissent pas, donc c'est quand même une résurrection qui se perçoit dans la foi et pas dans autre chose. Arrêtez tous ces débats-là. Arrêtez tout cela, ne me touche pas, dit Jésus. Arrêtez de vous préoccuper de cette question physique de la résurrection du Christ. Parce que le Christ ressuscité n'est pas touchable, il n'est pas un corps matériel, il est un corps spirituel. En tout cas, il n'a pas le mode de présence que l'on a ici-bas. Et donc, ne cherchez pas dans le matériel ce Christ ressuscité, il est d'un autre ordre. Ah, tout ça me convainc énormément, mais je vais vous dire, je crois que c'est totalement faux par rapport au texte, une fois de plus. Pourquoi ? Parce que Jésus ne dit pas « ne me touche pas parce que je suis intouchable », mais il dit « ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père ». Donc il laisse supposer que quand il sera monté vers son Père, on pourra le toucher. Et donc ce que j'ai dit ne colle pas du tout en fait avec le texte, c'est beau, enfin, ça m'a beaucoup plu, hein. Vraiment je me suis convaincu moi-même, j'ai trouvé formidable. Mais néanmoins ce n'est pas faire justice au texte puisque Jésus lui dit « ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers le Père ». Cela voudrait dire que quand il sera vraiment monté vers le Père spirituellement, on pourra le toucher, ce qui est tout à fait le contraire de ce que je vous ai dit. Donc j'ai peut-être fait fausse route, je ne sais pas. Alors, du coup, je dois reprendre ma copie et j'ai recherché dans mes grimoires, dans mes livres, dans mes ouvrages, dans les théologiens, et j'ai trouvé ce que disent mes collègues aujourd'hui. Alors là, c'est encore plus faux que ce que je viens de vous dire. En général, ils disent, dans les Bibles modernes, ils disent le verbe utilisé là, « apto », veut dire en grec classique, non pas tellement toucher, mais veut dire prendre, s'accaparer, accrocher. Et ce qui fait que du coup, la traduction écuménique traduit non pas « ne me touche pas », mais « ne me retiens pas ». Et la traduction écuménique et la Nouvelle Bible Second dit « cesse de t'accrocher à moi ». Bon, c'est intéressant, mais je ne vois pas du tout où ça peut en venir. Cesse de t'accrocher à moi. Oui, évidemment, il ne faut pas s'accrocher à Jésus. Mais alors, pourquoi est-ce que plus tard, elle pourrait le faire? Bon, je ne comprends pas. Et puis même, en fait, c'est totalement faux, parce que le grec du Nouveau Testament n'est pas le grec classique. Et le verbe « apto », dans tout l'Ancien Testament en grec, ne veut jamais dire « retenir », ne veut jamais dire « accrocher », mais toujours simplement « toucher ». Donc, ces Bibles ont faux. Voilà. Mais en fait, ça m'a quand même mis sur une voie qui n'est peut-être pas tout à fait fausse. Cette idée de s'accrocher à moi, de s'attacher à moi, je me suis dit, tiens, c'est vrai, finalement, Marie-Madeleine était très possessive avec son Jésus. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, hein, quand elle voit Jésus qu'elle prend pour le jardinier, elle lui dit... Ils ont pris mon Seigneur, dis-moi où ils l'ont mis et je vais m'en occuper. Donc Marie-Madeleine faisait de Jésus sa chose à elle. Là, elle le retrouve et elle veut le prendre pour elle. Et Jésus lui dit, ne t'accroche pas à moi, ne me prends pas, parce que on ne peut pas posséder Jésus ni en faire sa chose à soi. On ne peut pas le tenir entièrement, ni même le toucher, dire « ça y est, j'ai touché Jésus », parce que Jésus est toujours au-delà de ce que l'on en pense, et même si on croit toucher Jésus, il est encore un peu plus loin. Vous savez, comme ces arcs-en-ciel, on me disait quand j'étais enfant, au pied de l'arc-en-ciel, il y a un chaudron plein d'or, alors je courais au pied de l'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel était plus loin. Et finalement, Jésus, il est comme ça, on ne peut jamais dire « j'ai trouvé Jésus, ça y est, et ben voilà, j'ai Jésus, c'est top, maintenant c'est... Je fais quoi maintenant à propos, puisque j'ai Jésus ? Ben, je suis content. Non, Jésus, on ne le touche jamais, parce qu'il est toujours devant et toujours plus loin. Donc cette idée n'est peut-être pas entièrement sotte, parce que Jésus, comme Dieu d'ailleurs, est toujours au-delà de ce que l'on peut en dire et de ce que l'on peut en penser. Et nous devons accepter que Jésus nous échappe toujours, finalement. On ne peut pas l'accrocher, on ne peut pas le toucher. Et sans cesse, on doit se questionner, et sans cesse, on doit accepter que cet ultime, finalement, nous dépasse. Et de même, l'idée de toucher Jésus, si c'est de l'enfermer, de l'accrocher, oui, il ne faut jamais enfermer Jésus dans ses dogmes, dans ses certitudes. Jésus est au-delà de tout ce que l'on peut en penser et en dire, et par conséquent... j'ai été tout à l'heure monstrueusement dogmatique. Quand je vous dis « je ne crois pas à la résurrection corporelle de Jésus », mais j'étais en train d'enfermer Jésus dans quelque chose, peut-être que Jésus, lui, ressuscite plus que je ne le crois, j'espère bien. Et donc, on a tous tort. Celui qui dit « il faut croire dans ceci », il a tort, et celui qui dit « interdit d'y croire », il a tort aussi. parce que certainement qu'il y a là quelque chose qui de toute façon nous dépasse. Voilà. Et donc Jésus, il est au-delà. Et même, ce serait scandaleux de dire « c'est mon Jésus à moi qui est le bon ». C'est ce que j'ai eu tendance à faire, hein. Moi, je sais qui est Jésus, je sais ce que c'est que la résurrection, je sais ce que c'est que Pâques, j'ai ma confession de foi, j'ai une sorte de vérité, et j'enferme ce Jésus dans mes bras. Et Jésus dit « arrête ça, laisse-moi, parce que je ne t'appartiens pas à toi seul, mais j'appartiens aussi à tous les autres ». Et donc ce Jésus ressuscité, c'est celui de tous les chrétiens. Et que personne ne tire la couverture à lui en disant « le Jésus ressuscité, c'est le mien et seulement le mien ». Chacun peut avoir sa propre foi, son propre mode de relation à Dieu, et c'est bien de s'approprier son Jésus à soi, mais à un moment donné, il faut le laisser filer, pour en laisser un peu aux autres, et pour lui permettre aussi d'aller plus loin. On retrouve cette idée dans l'autre récit de résurrection, vous savez, les pèlerins d'Emmaüs, dans Luc. Quand tout à coup les disciples reconnaissent que c'est Jésus qui marchait à leur côté, et ils disent là cette phrase magnifique, « Reste avec nous Seigneur, car le jour décline ». Et on nous dit, Jésus fit mine de vouloir aller plus loin, il lui dit « Reste avec nous, car le jour décline », et aussitôt il disparut à l'instant. C'est-à-dire que Jésus va toujours plus loin, et dès qu'on croit le posséder, il n'est plus là. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'assez juste, et même, je dirais même d'un point de vue mystique. Posséder, pas forcément physiquement, mais là j'ai parlé intellectuellement par la doctrine, mais ça peut être vrai aussi du point de vue de la foi, de la relation mystique au Christ. Il ne faut pas s'enfermer dans la contemplation spirituelle. C'est-à-dire qu'il y aurait un risque, mais c'est peut-être pas tellement le vôtre qui est en général dans le monde, c'est le risque des religieux, des moines ou des pasteurs, je ne sais pas, qui risquent de rester bloqués dans la prière, de rester bloqués dans la relation avec le Christ, et puis finalement de rester là dans une sorte d'étreinte qui n'en finit jamais avec le Christ. Et Jésus lui dit, bon allez, dégage. Il lui dit, va vers mes frères. Et va leur parler, va leur annoncer. C'est-à-dire que Jésus, effectivement, la détache de lui pour lui dire « Arrête de passer ton temps à me contempler amoureusement, à dire « Ah, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus » et va un peu vers les autres. C'est-à-dire sors de ta foi, sors de ta prière, sors de ton monastère, sors de ton église, de ton temple, de ta Bible, de tes foi, de tes prières et va agir vers les autres pour leur apporter une bonne nouvelle. La contemplation du ressuscité, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est d'aller vers les frères et sœurs. Ou même, je dirais, puisque peut-être que votre tentation n'est pas vous d'aller vous enfermer dans un monastère, mais puisqu'il s'agit là du Christ ressuscité ou des apparitions, de ne pas rester bloqué sur cette foi dans la résurrection, comme si c'était un sujet essentiel ou vital, central, nous dit-on, de la foi chrétienne. Arrêtez un peu tout ça et allez vers les autres. L'Évangile, c'est ça. L'Évangile, c'est une foi qui nous met en avant, qui nous fait aller vers les autres. Si vous restez bloqué sur ces questions de Pâques et de résurrection, vous avez tout faux. De toute façon, ce n'est pas la peine de chercher à toucher parfaitement Jésus. Ce n'est pas la peine de chercher à tout comprendre, à tout saisir, mais il faut agir, même si notre foi n'est pas parfaite. Mais je me suis encore égaré parce que je n'ai toujours pas expliqué le « pas encore ». Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Est-ce que, là encore, je me suis enthousiasmé, mais ça ne répond toujours pas au texte, parce que ce que j'ai dit reste vrai toujours. Et Jésus dit, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, est-ce qu'une fois que Jésus est vraiment spirituel, alors on pourrait s'accrocher à lui et ne rester que de l'adorer ? Certainement pas. Et donc, il faut maintenant chercher comment expliquer ce « pas encore », qui, à mon avis, est la clé de l'affaire. Ne me touche pas parce que je ne suis pas encore, donc quand je serai monté vers mon Père, tu pourras me toucher. Alors, ce qui prouve que ce n'est pas un commandement définitif, mais que c'est quelque chose de passager, autrement dit. Donc si je suis la logique du texte, ça voudrait dire que plus tard, je pourrai toucher le Christ. C'est ça, en fait. Hein. Alors là, évidemment, c'est curieux parce que quand Jésus sera monté au Père, il sera encore plus spirituel, donc je pourrai encore moins le toucher, d'une certaine manière. Et du coup, c'est là où les pères de l'Église sont astucieux, parce que saint Augustin, à la suite de son maître Ambroise, justement, ont vu ça. Ils ont dit, par conséquent, il faut croire que le mot « toucher » ne veut pas dire « toucher » physiquement. Et ils disent que, par conséquent, c'est de toucher par la foi, parce que « toucher », en fait, dit saint Augustin, ça veut dire « croire », parce qu'on peut toucher Jésus par la foi. Mais que veut dire, saint Augustin dit, que veut dire toucher si ce n'est croire ? Croire par la foi. En effet, dit-il, nous touchons le Christ et il vaut mieux ne pas le toucher de nos mains, mais le toucher par la foi. Donc effectivement, si on peut le toucher après, quand il est monté vers le Père, c'est-à-dire devenu totalement spirituel, c'est que le premier toucher ne désignait pas un toucher physique, mais autre chose, c'est-à-dire de toucher par la foi, c'est-à-dire de le comprendre, de se rapprocher de lui, de garder ce que l'on a de Jésus à un moment donné. Alors autrement dit, il dirait à Marie-Madeleine, tu pourras plus tard me toucher, mais pour l'instant, non, laisse-moi, pas maintenant. Alors pourquoi ce pas encore ? Eh bien Jésus le dit, parce que je ne suis pas encore allé vers mon Père. Donc ça veut dire qu'il y a dans ce Christ, au moment qui apparaît à Marie-Madeleine à ce moment-là, quelque chose auquel elle ne doit pas rester. C'est une situation transitoire, et ce Christ qui apparaît à Marie-Madeleine, il lui manque quelque chose. Elle ne doit pas en rester là pour le garder. Certains disent que c'est parce qu'au moment où Jésus lui apparaît, elle l'appelle Rabouni, ce qui veut dire en araméen maître, professeur, enseignant. Et donc les pères de l'Église disent que, en fait, le problème de Marie-Madeleine, c'est qu'à ce moment-là, elle voyait en Jésus un enseignant et qu'il ne faut pas en rester à l'enseignement du Christ, mais il faut aller au-delà, vers une relation plus mystique, justement, avec Jésus et plus spirituelle. Et c'est ce que dit un autre père de l'Église, Cyrille d'Alexandrie, qui dit qu'elle ne devait pas toucher Jésus parce qu'elle n'avait pas encore reçu l'Esprit-Saint et que confesser sa foi ne suffit pas, mais il faut aussi avoir le Saint-Esprit pour toucher le Christ. Et ça me met ça en lien avec une vieille pratique de l'Église ancienne qui disait que les catéchumènes qui professaient leur foi, qui disaient « je crois en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur », eh bien, celui qui professait sa foi n'avait pas le droit de communier à l'Église. Il fallait qu'il attende sa confirmation ou lui était donné le Saint-Esprit. Et donc voilà, l'idée c'est que Marie-Madeleine, à ce moment-là, n'avait qu'un Christ incomplet. Il n'était pour elle qu'un message, et Jésus lui dit, pour ce que tu dois prendre et garder en toi, c'est pas juste ce que tu comprends là, mais ce que tu comprendras plus tard, quand tu auras vraiment compris ce qu'est le Christ ressuscité, monté auprès de Dieu, c'est-à-dire le Christ ressuscité spirituel. Et là, je suis content, parce que c'est aussi ce que je prêche à chaque fois à Pâques, et je dis, arrêtez de vous préoccuper des apparitions, elles ont eu lieu ou pas, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est comment Jésus est-il présent aujourd'hui parmi nous. Et donc, c'est le Christ est ressuscité, aujourd'hui Christ est ressuscité, donc il est présent. Cela veut dire que la résurrection du Christ, pour nous, est quelque chose d'ordre spirituel, puisque Jésus n'est pas là assis dans ses bancs, et notre relation au Christ ressuscité, elle est d'ordre spirituel, et la résurrection du Christ ne se limite pas aux apparitions. Donc faites ce que vous voulez des apparitions, mais comprenez que la résurrection n'est pas coextensive avec les apparitions, ce sont deux phénomènes différents. Et justement, Jésus lui dit, ne t'attache pas à cette question d'apparition, attends que je sois monté vers le Père, c'est-à-dire justement qu'il n'y ait plus d'apparition physique, mais qu'il n'y ait qu'une présence spirituelle. Et c'est à ce Christ présent spirituellement qu'il faut s'attacher. Il faut comprendre que ce mode de présence du Christ, il est spirituel. Et même, dirais-je, faire tout le chemin complet du Christ vers le Père. Parce que là, elle s'attache au Christ et Jésus lui dit, attends, non, reste pas là. Tu pourras t'attacher à moi quand je serai monté au Père. C'est-à-dire que Jésus veut l'amener jusqu'à Dieu. Vous voyez ? Il faut faire tout ce chemin complet du Christ au Père. Et donc, lire l'Évangile, c'est très bien. Et on peut être chrétien dans le sens que l'on aime bien l'Évangile et on trouve que Jésus a raison. Il dit qu'il faudrait s'aimer, se pardonner, se servir, faire la paix. Ce serait quand même une bonne chose. Bon, on peut aimer l'Évangile comme des valeurs essentielles que l'on veut vivre. Et Jésus dit, écoutez, c'est déjà pas mal ça, si vous avez quelques valeurs chrétiennes qui restent. Mais il faut que, n'en restez pas là. Il faut remonter tout cela au Père, c'est-à-dire remonter jusqu'à Dieu. Ce que je peux comprendre en disant que cela veut dire que ces valeurs que vous proclamez, dans lesquelles vous croyez, que ça revienne jusqu'à votre Dieu à vous, c'est-à-dire que vous en fassiez le cœur fondamental de votre existence, le cœur atomique de votre être, que vous en fassiez l'essentiel de votre vie et que ces valeurs et cet évangile, vous le mettiez à la place de ce qui pour vous est Dieu, c'est-à-dire une question de vie et de mort, une question de savoir qui je suis et si ma vie a un sens ou si elle n'a pas de sens. Et si vous prenez cet évangile, non pas comme une parole sympathique de quelqu'un qui dit des choses tout à fait valables et puis il y a plein d'autres gens qui ont dit des choses sympathiques, mais que cet évangile, vous le preniez pour en mettre le cœur de ses convictions fondamentales et de ce sur quoi on construit toute sa vie. Alors là, je commence à mieux comprendre ce qu'il veut dire et puis je vous livre en guise de dessert une dernière lecture pour les fidèles. Donc ceux qui sèchent les cultes trop souvent, vous ne comprendrez rien, tant pis pour vous, mais les prédications sont sur Internet. Si, il y en a qui ont bonne mémoire. Vous vous souvenez qu'il y a, je ne sais pas combien de temps, j'avais prêché en disant que justement cette histoire de Jésus qui apparaît là dans le jardin, il est montré par l'évangile de Jean comme étant l'arbre au milieu du jardin. Jésus d'ailleurs est le jardinier, il est le bois, la croix ça veut dire le bois au milieu du jardin, etc. Et donc Jésus est l'arbre au milieu du jardin. Bon. Ensuite j'ai cherché dans mes dictionnaires ce fameux verbe toucher, apto. Je me rends compte que la première fois où ce verbe est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est quand Dieu dit à Adam, tu vois, il y a là au milieu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Tiens, ça c'est drôle. Tu ne touches pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ensuite, Adam et Ève font des bêtises, ils sont chassés du paradis, et on dit qu'on les met dehors pour qu'ils ne touchent pas à l'arbre de la vie, à l'arbre qui donne la vie éternelle. Et donc, je me dis, mais finalement, et je vous avais démontré dans cette prédication que Jésus était l'arbre de la vie. Et donc, il y a là quelque chose de très cohérent, et je crois que finalement, c'est ça la seule chose vraie, mais c'est tellement alambiqué que ça n'aurait dit rien à personne, donc je le dis qu'en passant à la fin. Et là encore, cela veut dire que Marie-Madeleine n'est pas encore autorisée à toucher de l'arbre de la vie, parce que Jésus n'est pas totalement ressuscité. Et qu'on peut accéder à cet arbre de vie, c'est-à-dire à cette source de vie éternelle, qu'à partir du moment où on a réussi à unir parfaitement le Christ au Père, et à ce moment-là, on peut avoir enfin accès à l'arbre de vie et à celui qui nous donne la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est justement quand cet évangile, quand ce message, quand cet exemple du Christ devient le cœur de notre foi, le cœur de notre vie et de nos valeurs, devient le centre même de notre raison d'être et de vivre, quand nous comprenons qu'il y a là une présence spirituelle et divine qui nous accompagne, qui nous donne la lumière et la vie, à ce moment-là, vous pouvez toucher de cet arbre de vie, et à ce moment-là, vous êtes renvoyé au centre du jardin, du paradis, du jardin des délices, et vous pouvez avoir accès à cet arbre qui donne la vie éternelle. Amen.